Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 26. Voici Marie Mollet,
Stéphane Carpentier,
Laurent Tessier, Brice Dugé, Greg Caranoni et Cyprien Sini.
Jusqu'à 20h, évidemment, l'actualité vue autrement. Vous commentez tout cela, vous êtes les bienvenus sur les réseaux sociaux. Vous nous accompagnez, le compte Twitter, la page Facebook. Vous êtes prêts, les amis?
Absolument.
Vous avez bien travaillé, tout est prêt?
Oui.
Alors, on y va pour le sommaire.
Ce ne sont pas les plus à plaindre, mais sous Covid, leur vie a pris une étrange tournure. Sujet tabou, entre huis clos et annulation, les sportifs pros au bout du rouleau. C'est l'enquête dont défait le monde. Baraka City, génération identitaire, la dissolution des groupes extrémistes, comment ça marche et surtout, est-ce que ça marche? On allumera la lumière sur le sujet. Comme tous les vendredis, le loser, le grand perdant de la semaine, et cette semaine, Marie, c'est une grande partie de la droite qui perd son champion.
Oui, il rêvait d'un retour de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, c'est sur un autre candidat qu'ils devront miser.
Le billet retour, quand on revient sur une info qui a disparu de la circulation. Et Brice, vous moqueriez pas un peu de nous ce soir? Vous voulez nous parler de Carlos Ghosn, mais il était partout cette semaine, sans un livre.
Oui, mais Carlos Ghosn a beaucoup parlé cette semaine, mais pas de ce qui nous intéresse.
Non, vous avez intérêt à être bon. D'ici 20h, ça me laisse sans voix. Vos trois infos pour briller au dîner. Dans Marche ou Rêve, on va courir sur les bords du Nil. Et évidemment, le cadeau avec des écouteurs sans fil pour vous refaire tous les podcasts de cette merveilleuse émission. On défait le monde, saison 2, épisode 26.
Allez hop, on y va, on va pour l'aventure. Vendredi 5 mars, nous voilà.
On défait le monde dans RTL Soir.
19h19, on y va parce qu'il surfe tous les matins de la semaine. Rien que pour vous, Cyprien Sini, 6h40, juste avant 8h. Et le vendredi soir, Cyprien, c'est le surf de la semaine.
Et cette semaine, grande nouvelle. Le retour de notre épidémiologiste préféré. Vous l'aimez tous, jingle.
Vous pouvez poser une question.
Il se passe un truc où il y a trois chimpanzés qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, tout ça est fou.
Si vous voulez, c'est moi les victimes.
Le Zidane de la maladie infectieuse, Didier Raoult, et sa nouvelle analyse de fond. Oui, après son, il n'y aura pas de pandémie.
Il y a très peu de maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment. Ça n'existe pas.
Mais oui, après le « Oh, mais il n'y aura pas de deuxième vague !»
Certains parlent d'une seconde vague.
Non, mais je ne sais pas d'où ça sortit, c'est encore une espèce de fantaisie, ça. C'est de la science-fiction, on dit des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, hein, pas, donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi.
Joli. Après son analyse vaccin.
Je ne sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui tue pas, quoi.
Bien vu. Notre sémillant savant a enfin répondu à la question que le monde entier se pose. Pourquoi cette explosion pandémique en ce moment? Et alors, oubliez les variants anglais, brésiliens, tout ça. Non, l'explication est ailleurs.
Samedi soir, on est tous allés ensemble et on est allés fumer un chicha. Mais je n'avais pas réalisé l'ampleur qu'a pris la consommation de chicha dans nos pays européens. Or, les maladies infectieuses, c'est toujours lié à l'usage d'une nouvelle technologie ou à un changement d'écosystème. Et ça, c'est un changement radical. Cette chose-là n'existait pas.
Eh oui, c'est la chicha qui fait exploser les cas. Vous n'avez pas vu venir celle-là. Bon, sinon, le roi de la com, Noël Le Graët, a encore frappé le président de la Fédération de foot qui nous avait déjà offert le fameux...
Très franchement, le phénomène racisme dans le sport et dans le foot en particulier n'existe pas.
Bah, évidemment. Eh bien, cette semaine, il est revenu sur la mauvaise ambiance, vous savez, qui règne au sein de l'équipe de France de foot féminine. Et alors, il a particulièrement, mais alors vraiment bien, choisi ces termes, Noël.
Aucun match perdu. Donc, elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal.
Elles peuvent se tirer les cheveux, les filles. Joli, Noël. Très 2021, ça, comme communication. Qu'elles se crêpent le chignon. Enfin, terminons par un peu d'évasion. Ah, le Canada, les grands espaces. Et nos amis canadiens, très perturbés par une énorme affaire cette semaine. C'était à la une de tous les journaux.
Rebondissement dans ce qu'on appelle le Buttergate.
Le Buttergate, comprenez le problème avec le beurre, oui. Depuis quelques temps, le beurre est plus dur à tartiner au Canada. Et ça fait la une de tous les journaux, chacun ses problèmes. Hein. Après moult investigations quand même, il y a eu le fin mot de l'histoire.
En fait, on a découvert qu'il y aurait de l'huile de palme utilisée dans l'alimentation de certaines vaches laitières au Québec.
Résultat, le beurre est plus dur, hein. Sûrement savoir pour votre culture générale. Après, si vous aviez l'intention d'aller vous installer au Québec... pas certain que le beurre soit votre problème numéro un. Non, parce que visiblement, les souverainistes québécois commencent à en avoir ras la casquette de voir des Français débarquer à l'image du dénommé Guillaume Wagner qu'on a découvert cette semaine. Mais alors, il est un poil extrémiste et surtout, bah, pas chaud sur l'accueil, écoutez.
Des sales gauchistes, c'est ça qu'on a comme immigration française au Québec. On a des sales gauchistes! Donc, c'est vrai que les Français, c'est une catastrophe. Enfin, combien de fois on a vu les Français, ils parlent entre eux, puis avec leur accent français dégueulasse en anglais, ils parlent en anglais à leur enfant. « Would you like to know the strawberry? » C'est dégueulasse, quoi. Ils viennent à Montréal, puis ils apprennent l'anglais à leur enfant. Ils viennent nous angliciser. C'est dingue, ça! On n'est pas là pour que vous veniez nous angliciser, bordel de chiasse!
Et bienvenue au Québec, surtout! C'était sponsorisé par l'Office du tourisme du Québec. Vivons la semaine prochaine!
Il est très, très énervé. Hein.
Très énervé. Il y en a une minute trente, comme ça.
Formidable.
On va le suivre.
Du surf de la semaine, Cyprien Sini.
On défait le monde sur RTL.
Allez, on en vient à la première grosse info de ce soir qui donc nous intéresse, celle concernant les sportifs en détresse.
Oui, alors évidemment, comparé aux restaurateurs, aux étudiants, au monde de la culture entre autres, hein, les sportifs pros ne sont pas les plus à plaindre. Mais entre huis clos, quarantaine et annulation de compétition depuis un an, ils sont nombreux à commencer à se demander vraiment à quoi ils servent, à craquer psychologiquement. Écoutez par exemple le tennisman Gaël Monfils.
J'arrive pas à servir, j'arrive pas à faire un coup droit, j'ai pas de confiance, ça me fait mal. Je vais te donner la phrase simple de ma mère, tu vois. Elle va me dire... tu vois, il faut continuer à s'entraîner. Et ça reviendra.
C'est rare de les entendre comme ça. Du coup, Laurent, bah, vous avez enquêté sur ce blues des sportifs.
Oui, le tennisman français Gilles Simon est un autre exemple. Il a annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux qu'il allait s'arrêter temporairement.
Le cœur n'y étant plus du tout pour voyager et jouer dans ces conditions, je suis malheureusement obligé de faire une pause afin de me préserver mentalement, en espérant que le moral revienne le plus rapidement possible. Merci à tous les fidèles pour votre soutien et à bientôt.
En juin dernier, on est dans les premiers mois de la pandémie, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels avait interrogé des centaines d'athlètes dans 16 pays différents. 22% des joueuses et 13% des joueurs avaient des symptômes qui correspondaient à de la dépression, le double de ce que l'on voit habituellement. Un choc de l'arrêt de compétition difficile à encaisser. Aujourd'hui, une reprise sans public. Et ce n'est pas naturel, hein, comme nous le rappelle notre consultant football pour RTL M6 et ancien international Robert Pires.
On a été habitué à jouer dans des stades remplis, à moitié remplis, ce que l'on veut, mais disons avoir des gens qui nous supportent, qui nous donnent de la force ou de l'énergie, ou d'autres qui nous insultent, parce que ça fait partie aussi du jeu. Donc le spectacle est un peu moins bon justement par rapport à ça.
Le public fait partie du sport. Au niveau professionnel, c'est même un spectacle à part entière, un événement, un show quelquefois. Prenons tiens un autre exemple, celui du rugby. Mathieu Giudicelli, directeur général de Proval, c'est le syndicat des joueurs et joueuses professionnelles. La cellule psychologique mise en place depuis octobre 2019 a été renforcée suite à l'arrivée du Covid-19 et le téléphone sonne régulièrement.
Forcément, on est de plus en plus sollicité, que ce soit au niveau psychologique ou dans la vie quotidienne. On a vu déjà lors de la saison dernière qu'il y a eu un nombre important de chômeurs par rapport aux années précédentes.
Avec la crise du coronavirus, l'économie des clubs est en difficulté. Les joueurs subissent directement les conséquences. Cet été, on comptait plus de 100 joueurs professionnels au chômage. Le syndicat propose des formations, reconversions à certains pour qu'ils puissent se projeter. Mais tout le monde n'ose pas s'exprimer pour une raison dans le rugby.
On est un sport à part quand même, un sport rude où on ne montre pas nos faiblesses.
Et pour celles et ceux qui sont toujours là, pas de public donc et des règles sanitaires très strictes.
Quand il faut se mettre en quarantaine, ça arrive du jour au lendemain, on n'est pas préparé, on était projeté pour jouer un match le week-end. Malheureusement, bon, il faut reporter ce match-là, il sera joué à une date ultérieure, on ne sait pas quand.
Et si un joueur est positif, il est isolé, il perd en rythme et peut ensuite, me confier Robert Pires, perdre sa place.
Le constat, il est terrible, il est sans appel. Comment certains sportifs sont suivis?
Alors, je vous présente Myriam Salmi, c'est la psychologue de nombreux champions français, hein, comme par exemple le judoka Teddy Riner, et elle entend aussi cette souffrance.
Il y en a qui commencent à perdre patience, il y en a qui se demandent s'ils vont y arriver. Hein, s'ils vont arriver à se qualifier, s'ils vont arriver à aller aux Jeux Olympiques.
L'objectif des Jeux Olympiques de Tokyo, le manque de préparation peut devenir anxiogène avec ce rêve des médailles, hein, qu'ont ces sportifs. C'est le rêve d'une vie, tout simplement. Ils sont programmés depuis des années pour un événement, à un moment particulier. Et Myriam Salmi prépare en ce moment des athlètes professionnels à rester, par exemple, 2 semaines isolés dans leur chambre.
s'entraîner dans une chambre physiquement, donc des exercices qu'on n'avait jamais fait sur le plan psy, s'occuper l'esprit, ben la lecture, les séries, les documentaires, mais pour certains c'est pourquoi pas apprendre une langue.
Et pour gérer l'absence du public, là aussi il y a toute une préparation.
On va l'anticiper avant de partir, ça veut dire que ça doit pas rester théorique, vous voyez, ben, il y aura pas de public, non, il faut le travailler, il y aura pas de public, donc qu'est-ce que ça va te faire? Tu vas arriver dans un endroit qui est vide. Il faut savoir le visualiser, ça, que le cerveau l'intègre.
Et en tout cas, en ce moment, et même dans les mois à venir, pour tous les sportifs professionnels.
Je travaille depuis pratiquement 28 ans maintenant, hein, dans le sport de haut niveau. Là, c'est ce que je dis, ça va être... c'est les compétitions du mental, là.
Et un point que Myriam Salmi tient à rappeler, les sportifs professionnels ont la chance de faire des compétitions, contrairement au monde amateur.
Et ça, c'est bien de le souligner. Passionnante enquête dans Défait le Monde ce soir. Hein. C'est un truc qu'on ne mesure pas forcément, l'impact qu'il peut y avoir sur ces sportifs.
Et la précarité, il parlait des joueurs professionnels de rugby, ça, il y a une vraie précarité parmi les joueurs professionnels.
Mesdames, messieurs, la première info pour briller au dîner, c'est dans une poignée de secondes et c'est Marie Mollet qui entre en scène. À tout de suite.
On défait le monde sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
19h30, merci de nous accompagner, c'est jusqu'à 20h. C'est On défait le monde en ce vendredi soir, comme tous les vendredis soirs. Première info pour briller au dîner, c'est avec Marie et le pape.
Et oui, vous savez que le pape François entame aujourd'hui une visite très symbolique en Irak auprès des chrétiens d'Orient. Peut-être y verra-t-on la papa mobile, hein, vous savez, cette voiturette hors du commun qui lui permet de fendre la foule quand il est en déplacement. Alors j'ai voulu me demander d'où viennent ces véhicules pontificaux. Eh bien, ils ne sont pas made in Vatican, ce sont toujours des cadeaux offerts par les constructeurs automobiles qui ont très bien compris l'extraordinaire pouvoir publicitaire de l'objet et donc redoublent d'ingéniosité pour proposer des voitures sur mesure, toujours plus confortables, plus sécurisées, blindées. C'est Mercedes qui a sans doute fourni en premier la flotte papale. Renault Dacia est venu également l'enrichir. Récemment, le pape François a reçu...
Il y a une papa mobile Dacia ?
Bah oui, j'étais étonnée aussi. Ah ouais. Okay. Le pape François a reçu une Toyota Mirai électrique pour se montrer écolo. La papa mobile qui est venue remplacer en 1980 la chaise à porteur, soulevée alors par 14 hommes et que Jean-Paul II avait décidé de mettre au placard.
Ah, je veux bien que ce soit un coup de pub, mais c'est quand même pas facile à revendre.
Je vois pas qui va demander le même modèle. Quoi.
C'est que sur le bon coin, j'en ai vu une fois.
Oh.
À vendre, de papa mobile.
Ouais. Bon. Ouais. Combien
vous l'avez même fait en chronique à 7h58 sur RTL, tellement c'était faux. À l'époque.
Voilà. Vous allez vendre le replay là ou c'est bon ? Elle non, était bon. Bien cette première info pour envoyer au dîner, 19h31.
Allume la lumière.
Allume la lumière.
On l'a appris cette semaine. Le groupe d'extrême droite Génération Identitaire a été dissous. Avant cela, ces derniers mois, trois associations proches de la mouvance islamiste, le CCIF, Baraka City et le collectif Cheikh Yassine, avaient suivi le même chemin.
Alors on a voulu allumer la lumière sur ces décisions pas si fréquentes. Qu'est-ce que ça signifie dissoudre une association ? Est-ce que ça marche ? Et quel est l'intérêt ?
Et pour répondre à toutes ces questions, on a joint Benjamin Morel. Il est maître de conférence en droit public à l'Université de Paris 2. Il est docteur en sciences politique. Et d'abord, c'est quoi dissoudre une association ? Comment ça marche ?
Dès lors qu'une association ou un groupe politique est amené à troubler l'ordre public, ce qui peut être compris à la fois comme potentiellement des manifestations violentes, mais également comme la propagation d'une idéologie qui serait raciste, antisémite ou prônant la haine, à ce moment-là, vous avez une possibilité de dissolution, notamment par une décision prise en Conseil des ministres. Ça veut dire que la structure administrative de l'association est réputée disparaître et qu'à partir de là, elle ne peut pas être reproduite, y compris sous un autre nom. Après, vous n'interdisez pas aux membres de l'association de pouvoir continuer à entretenir des contacts. Et c'est ça qui, évidemment, relativise toute la portée d'une telle disposition.
Tiens, justement, si les membres peuvent continuer à se voir, ils ne risquent pas de créer une nouvelle association ?
Alors, c'est un peu le problème. Écoutez les explications et surtout l'exemple que donne Benjamin Morel.
Normalement, si on prend par exemple la question de Jeunesse Identitaire, qui est une association qui, en réalité, avait été construite sur les ruines d'Unité Radicale. Le tribunal de grande instance de Nice avait considéré que, en effet, il y avait là la reprise d'une association d'extrême droite qui avait été dissoute et qui était réputée justement ne pas pouvoir se reformer. Donc du coup, ces créateurs avaient été condamnés, mais Jeunesse Identitaire a été recréée, ou en tout cas a été fondue dans une nouvelle structure qui, je vous le donne dans le mille, s'appelle en réalité Génération Identitaire. Et donc vous voyez que même si vous avez un suivi sur l'impossibilité de recréer des associations qui avaient été dissoutes, en réalité, vous ne pouvez pas, surtout quand vous êtes dans des petites structures, empêcher leurs membres de continuer à entretenir des liens, de continuer à entretenir des contacts, de continuer potentiellement même à mener des actions communes. Donc tout ça, en fait, crée une difficulté du point de vue de l'organisation en dissolvant les liens légaux, mais en soi, ça n'empêche évidemment pas ensuite les activités de leurs membres de continuer.
Donc si on écoute bien notre docteur en sciences politiques, en fait, c'est pas très efficace.
Pire que ça, Marie. L'aspect symbolique est fort, certes, mais alors concrètement, bah, ça peut même s'avérer contre-productif en réalité.
Symboliquement, c'est important. Ça complexifie en effet un peu la situation. Ça peut nuire dès le moment où vous avez des associations avec des membres qui se connaissent mal et qui sont en lien direct. Ça peut nuire à leur fonctionnement, mais en soi, ça ne résout absolument pas le problème. C'est-à-dire qu'en effet, une grande partie des spécialistes de ce type d'association sont très très sceptiques sur ces mesures, justement parce que ça rend beaucoup plus difficile le suivi de certains membres. Quand vous avez une entité qui est une entité administrative que vous pouvez contrôler, eh bien, vous avez malgré tout un suivi possible. Par ailleurs, quand vous regardez un petit peu le passif de certaines associations, la nécessité de maintenir une façade de légalité et la nécessité également d'éviter justement cette dissolution conduit parfois à modérer certaines actions violentes, alors que dès le moment où l'association est dissoute, les éléments les plus radicaux et les plus violents, eh bien, ne se restreignent plus et peuvent rentrer, pour certains, dans des attitudes beaucoup plus violentes. Il n'est pas certain en soi que ça règle beaucoup de problèmes.
Voilà, les choses sont très claires. Allume la lumière sur la dissolution des groupes extrémistes et le décryptage ce soir de Benjamin Morel. Il est 19h37.
À suivre dans On défait le monde.
Votre deuxième info pour briller, le loser de la semaine
et, ouais.
Et le jeu.
Et le jeu.
On défait le monde dans RTL Soir.
À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est même la deuxième ce soir, c'est avec Brice pour parler Birmanie.
Oui, où la répression après le coup d'État est chaque jour plus violente. Depuis un mois, on compte déjà plus de 50 morts parmi les manifestants qui réclament, vous savez, le retour à la démocratie après le coup d'État militaire, notamment dans les rues de Rangoon. Et ben, je voulais juste vous préciser que Rangoon n'est plus la capitale de la Birmanie. Oh. Il y a souvent des confusions, absolument. C'est plus le cas depuis 2005. Désormais, c'est une autre ville dans le centre du pays qui s'appelle Naypyidaw. Ouais. C'est une ville qui a été construite à partir de rien, au milieu de la jungle, par les militaire, donc il y a une quinzaine d'années, prétextant en fait qu'elle était plus centrale. Mais en fait, il semble que les vraies raisons ce soit la mégalomanie, voire la démence du général de l'époque, qui semble-t-il était, bon, voilà, était très mégalo. Ouais. Et la dernière raison, elle est beaucoup plus pragmatique, c'est qu'en cas de révolution ou de manifestation, les militaires avaient le sentiment que ce serait plus facile de protéger les institutions dans cette ville, que certains décrivent comme une ville fantôme sans habitants, alors qu'à Rangoon, très peuplée, est beaucoup plus prompte à se mobiliser, c'était plus difficile à contrôler pour les militaires.
Donc Rangoon n'est plus la capitale. On sent le grand reporter du service étranger un peu agacé.
Non, pas du tout. C'est juste Cyprien qui n'y arrivait pas. Et donc j'ai voulu une petite précision pour lui.
Naypyidaw.
Ouais.
C'est vachement dur.
Il m'a dit, mais je sais jamais, moi,
non, parce
si
que c'est écrit, il faut le dire à nos auditeurs, c'est écrit Naypyidaw.
Ouais.
C'est hyper compliqué, quoi.
C'est très compliqué.
Voilà, les choses sont dites, il est 19h39.
RTL. Le loser de la semaine.
Le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, pas un loser, mais des dizaines de milliers, voire des millions. Oui, Marie, cette semaine, ceux qui ont beaucoup perdu, ce sont tous ces Français qui rêvaient d'un retour de Nicolas Sarkozy en 2022.
Et oui, vous savez, ces Français amoureux fous de Nicolas Sarkozy, en transe à chacune de ses apparitions.
C'est un accueil, hein. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir d'ailleurs.
J'ai tous ses livres à la maison. Je ne les ai pas lus, mais je les ai.
Moi, c'est pour moi, c'est un dieu. Il y a lui qui peut sauver la France. Il peut faire des miracles.
Un fan club qui n'a jamais cru aux soupçons qui pèsent sur leur idole. Sarko, victime d'une conspiration, il le disait déjà à Dominique Tenza en 2018.
Oui, oui, on voit bien, on comprend bien la magouille.
Oui, oui, il y a un complot.
Un complot, oui. Oui, à ça sûr.
Vous avez des preuves?
Ah, oh, j'en suis sûre. C'est Hollande qui fait tout le mal. Hein. Tout ce qui arrive, c'est l'Elysée. Et je vous dis, vous aussi, journaliste, média.
Vous pensez qu'on fait partie du complot, nous aussi?
Mais bien sûr que vous êtes complice, monsieur, mais bien sûr. Moi, je ne vous écoute même plus.
Et toc, quant aux vieux barons de la droite, hein, les grognards sarkozistes, comme on les appelle, les fidèles parmi les fidèles, certains rêvaient encore au grand retour de Sarko pour 2022 et préparaient le terrain au cas où, comme le sénateur Pierre Charron.
Je crois que c'est le seul qui puisse espérer, en tout cas, être au second tour. Actuellement, nos candidats sont quatrièmes dans les sondages. Enfin, s'ils se battent pour faire 15%, ça sera sans moi. c'est pas d'être devant son copain avec un point d'avance. Non, ça s'appelle tricoter, ça. On va arrêter de tricoter et parler de choses sérieuses.
Alors allons-y, parlons de choses sérieuses.
Nicolas Sarkozy, reconnu coupable de corruption, a écopé de 3 ans de prison, dont une année ferme.
La droite, chaos debout, personne n'aurait parié sur une peine ferme. Les élus LR se précipitent dans les médias pour crier leur indignation.
C'est une décision qui est incompréhensible, invraisemblable, totalement disproportionnée.
Choqué, outré, ulcéré, attention, la comédia dell'arte n'a qu'à bien se tenir.
On a voulu se faire Nicolas Sarkozy. Comment peut-on parler de pacte de corruption ? On aurait voulu s'attaquer à un grand cartel de drogue, on n'aurait pas mieux fait.
Quant aux électeurs fanas de Sarkozy, ils se tuent à vous le dire.
Tout ça, c'est les procès politiques à la soviétique.
Comme ici à Neuilly-sur-Seine, au micro de Sébastien Rouxel.
Ils ont fait ça avec Fillon, avec des costumes. Et lui, on essaye de lui coller vraiment des casseroles un peu partout. On a voulu le faire payer parce qu'il devenait dangereux pour les prochaines élections, c'est tout.
Alors un retour en 2022, l'ancien président de la République a dit non cette semaine dans le Figaro. On rappelle qu'il a fait appel, il est donc présumé innocent. Aucune peine d'inéligibilité n'a été prononcée contre lui en première instance.
Alors je me permets Marie, hein, vu que oui. Vous êtes aussi au service politique de l'RTL.
La question piège.
Non, c'est pas une question piège, c'est une question analyse. Parce que du coup, il y a une partie de la droite, on les a entendus, ils sont très tristes que Nicolas Sarkozy se présente pas en 2022. En revanche, il y en a entre nous, ça doit un peu les arranger. Jean-Xavier Bertrand, Valérie Pécresse.
C'est sûr qu'un retour de Nicolas Sarkozy aurait écrasé toutes les autres candidatures.
Ah oui, sûrement.
Donc effectivement, ce jugement très sévère laisse le champ plus libre aux autres candidats éventuels, comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau. Ils ont compati pour la plupart sur les réseaux sociaux, sauf Laurent Wauquiez, qui est resté muet après la condamnation, l'un des seuls. Voilà.
19h42, on en vient au cadeau pour les auditeurs qui nous accompagnent tous les vendredis de 19h15 à 20h.
Mais pour le découvrir, faisons appel à la star de cette émission.
Ah, oh là là.
Tout simplement.
Monsieur Cadeau, Grégory Caranoni, ne nous décevez pas ce soir.
Alors ce soir, on vous offre des écouteurs sans fil du modèle Sphere de Focal. Ce sont des écouteurs Bluetooth ultra légers, au design élégant, compatible avec tous les smartphones. Il y a un son incroyablement authentique signé Focal. Si vous êtes dans le métro, que vous voulez écouter le podcast, comme dit Cyprien, ou
podcast.
Presque. Voilà, de On défait le monde. Je ne suis pas imitateur. Hein. C'est en Bluetooth et vous pourrez être complètement immergé dans le podcast de l'émission. Oui, Brice.
C'est quoi la musique qu'il y a derrière vous, Monsieur Cadeau ?
C'est la musique de Monsieur Cadeau. C'est une création originale pour l'émission.
D'accord, très bien.
Vous avez autre chose ?
J'ai autre chose, bien sûr. Ah. On vous offre une carte cadeau de 50€ à valoir chez Lidl dans l'un des 1500 magasins partout en France.
Bon, ça, c'est cool. Merci beaucoup, Greg.
Avec plaisir.
Alors, pour gagner tout ça, il faut répondre à la question d'On défait le monde.
Ah.
En début d'émission, on vous parlait des sportifs qui craquent à cause du Covid. Quel est le nom du tennisman français qu'on vous a fait écouter tout à l'heure ? Est-ce que c'était A, Gaël mon fils, B, Marlène sa sœur, ou C, Noël ma mère ? A mon fils, B sa sœur, C ma mère. Vous avez la bonne réponse, 32-10, 3-0-0, tirant au sort parmi les gagnants.
À quel moment vous créez la question ?
Avec Brice, il vient dans mon bureau,
milieu,
ça passe bien 50 minutes.
Vous faites réunion pour ça.
Ouais. Ouais. Ah, vous êtes formidable. Deux, c'est Covid compatible. Ouais,
du coup, le cerveau, ça fait
de la création.
Vu la facilité de la question, je pense que...
Moi, je pense
que
la question, elle est vite répondue.
32-10, vos appels pour tenter votre chance.
On défait le monde sur RTL.
Bien retour quand on revient sur une info qui a fait la une et qui a disparu de la circulation.
Oui, sauf que ce soir, Brice, vous avez décidé, vous avez insisté toute la semaine pour nous parler de Carlos Ghosn. Et là, il faut nous expliquer parce qu'on l'a vu partout cette semaine pour faire la promo de son livre.
Oui, il parle beaucoup, mais finalement très peu des détails de son évasion avec ses complices. Et en fait, on a appris pas mal de choses ces derniers temps.
Alors, si on prend les choses dans l'ordre, déjà, ses complices... Qui ils sont ?
Alors, le patron de l'équipe, c'est Michael Taylor, ancien des forces spéciales américaines. Il a 60 ans. Après sa carrière de militaire, il a vécu au Liban. Il y a créé une société de sécurité privée spécialisée dans les exfiltrations sensibles et difficiles. Et puis, il y a son fils, Peter Taylor, 28 ans. Et puis, un ami à eux, qui est libanais.
Et Carlos Ghosn, alors, il l'a appelé directement ?
Non, c'est un ami de la famille Ghosn qui connaît Taylor, justement, de ce passé lorsqu'il a vécu et travaillé au Liban. Taylor demande quelques détails, quand même, sur l'opération. Et c'est là qu'il est mis en relation avec la femme de Carlos
Carlos Ghosn, Carol Ghosn, et Taylor accepte alors de les aider.
Mais ça, Brice, c'est quand ? Une semaine avant ? Un mois avant ?
Eh bien non, c'est des mois avant. Comme l'explique Yann Rousseau, il est spécialiste de cette affaire, il était l'invité de l'heure du crime sur RTL le mois dernier.
Carol, son épouse, va rencontrer très tôt, dès le printemps, Michael Taylor, donc le principal architecte de l'évasion, pour lui dire dans quelles conditions il est détenu et quels sont les scénarios possibles. Donc c'est quelque chose qui est planifié effectivement depuis au moins le mois de mai ou le mois de juin.
Donc, 6 mois avant l'évasion, tout se met en marche. Peter Taylor, le fils, se rend au Japon dès juillet. Il ira 4 fois avant le jour J. Il fait des repérages et il rencontre Carlos Ghosn au restaurant. Peter Taylor lui explique comment ça va se passer. Il lui donne un téléphone portable secret qui va leur servir à communiquer pendant tous ces mois de préparation.
Et là, tout se prépare pour le jour J, le 29 décembre 2019.
Oui, ce jour-là, Michael Taylor et son complice libanais arrivent en jet privé à l'aéroport d'Osaka dans le centre du Japon parce que c'est un aéroport moins sécurisé que celui de Tokyo. Ils débarquent alors, les 2 caisses noires de matériel IFI se font passer pour des musiciens qui viennent à un concert et ils entreposent les malles dans une chambre d'hôtel à Osaka.
Oui, très bien. Et Carlos Ghosn, il est où ?
Alors lui, eh bien à ce moment-là, il quitte sa résidence et il se rend à l'hôtel Hayat, juste à côté, où il a ses habitudes pour déjeuner. À ce moment-là, il est 14h30.
Maintenant, il a le droit de se balader comme ça dans Tokyo ?
Absolument. Il a un statut. Écoutez, Yann Rousseau.
Il avait le droit de faire ce qu'il voulait dans Tokyo, d'aller voir des gens, d'aller au restaurant, d'aller à la gym, d'aller au cinéma. Il avait aussi le droit de sortir de la ville au moins jusqu'à 48 heures sans demander l'autorisation préalable du juge. Et il prenait le train comme un citoyen normal. Il n'avait pas quelqu'un qui le suivait en permanence. Ce n'était pas choquant de voir Carlos Ghosn au supermarché ou de voir Carlos Ghosn à manger une pizza à côté de vous.
Et les caméras de vidéosurveillance dans sa propre résidence ne retransmettent rien en direct. En fait, les images, elles sont enregistrées sur des cartes mémoire qui sont relevées 3 fois par semaine et elles ne le seront pas avant le lendemain de l'évasion. Et ça, évidemment, les complices le savent. Donc, officiellement, lorsqu'il sort, Ghosn, eh ben, personne ne le sait.
Donc là, il sort de son hôtel, il va à l'hôtel Hayat.
Oui, mais cette fois-ci, c'est donc pas pour déjeuner. Et il y retrouve Peter Taylor, chambre 933. Il reçoit les dernières consignes et le programme détaillé de l'opération. Puis tout le monde part à Osaka, 2 heures de train, arrivé au Stargate Hotel, chambre 4609 où sont entreposés les malles et Carlos Ghosn entre dans la chambre à 20h14 et ce sont les complices qui sortent seuls avec les 2 caisses à 21h47, 1h30 après. Carlos Ghosn évidemment est invisible puisqu'il est caché dans l'une des 2 malles. Quelques minutes après, ils arrivent à l'aéroport dans le terminal d'affaires qui est réservé aux passagers des jets privés. Il est 22h, l'aérogare est quasi déserte, les malles ne passent pas dans le scanner à bagages, ça aussi c'était prévu. Les complices se disent extrêmement pressés pour ne pas rater leur avion et accélérer les contrôles. Eh bien les boîtes ne sont pas ouvertes ni contrôlées.
Mais il n'y a aucun contrôle ?
Non, et c'est pas tellement surprenant en fait. D'abord parce que pour un jet privé, il n'y a pas vraiment de risque de détournement ou d'attentat, puisque à bord, il n'y a quand même que les clients. Et puis les douaniers sont moins regardants, d'abord avec ce type de clientèle, et puis surtout lorsque quelqu'un quitte le pays, c'est pas comme quand quelqu'un entre ou il risque par exemple d'importer de la drogue. Là, ils s'en vont, mais il y a quand même clairement une négligence de la part des services douaniers. 23h10, l'avion décolle, les malles sont dans la soute. Moins de 9 heures après avoir quitté sa résidence, Carlos Ghosn part vers la Turquie à Istanbul. Là, il change d'avion, direction Beyrouth, évasion. Parfaite.
Et les complices, ils ont été payés pour ça ?
Alors Michael Taylor lui dit que non, qu'il a fait ça parce qu'il trouvait que Carlos Ghosn était victime d'une injustice. En fait, on a vu des versements d'argent autour d'1 million d'euros sur certains comptes. Il avait tout prévu, comme je vous l'ai expliqué, sauf d'être extradé par les États-Unis vers le Japon. C'est pourtant ce qui s'est passé lundi avec son fils. Ils sont arrivés aux mains des juges japonais. Ils encourent 4 ans de prison pour complicité d'évasion.
Et il y a eu d'autres complices ?
Alors au Japon, pour l'instant, on ne sait pas. C'est ce que les juges japonais veulent savoir avec les Taylor père et fils, les interroger pour savoir s'ils ont bénéficié de complicité au Japon. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des complices au sein de la compagnie aérienne turque, puisque l'avion était turc. Il est revenu à Istanbul. Et là, il y a un des directeurs de la compagnie de jet privé et 2 pilotes qui ont été condamnés à 4 ans de prison ferme.
Il a eu raison d'insister. Quoi.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais, c'était bien.
C'est quand même c'est un histoire. Film d'espionnage, le truc. Quoi.
Belle histoire, ce billet retour. Il est 19h49, vous restez là. Dans un instant, la 3e info pour briller au dîner.
On défait le monde dans RTL.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Et 1e et 2e et 3e info pour briller au dîner avec Cyprien Champagne.
Oui, on l'a appris cette semaine, il n'y aura plus de pluie de champagne sur les podiums de Formule 1. Vous savez, cette tradition terminée. Il sera remplacé par du vin pétillant italien, enfin du mousseux quoi. Une histoire de sponsor. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient, cette tradition du champagne sur les podiums de F1 comme
Non,
ça
pas encore.
Eh bien, Grand Prix de France. 1950. C'était à Reims. Et là, évidemment, Reims Champagne, Mouette et Chandon offrent une bouteille sur le podium au vainqueur du jour, l'immense Juan Manuel Fangio. Et tout est parti de là.
C'est parti de là. Elle est bien, cette info pour lui. Il est très content de lui.
Ouais, ouais, comme toujours.
Magnifique.
Ouais.
Comme souvent. 19h52.
Comme trop souvent.
Comme trop souvent.
Marche ou rêve.
Marche ou rêve, c'est quand on met en avant vos initiatives, vos projets.
Et ce soir, Laurent, vous nous faites un 3 en 1. Aventure, ouais. Exploit sportif et mission humanitaire.
Ouais, je vous présente Claude, 38 ans. Il habite Béziers, ancien légionnaire et aujourd'hui aventurier de l'extrême. Le 30 mars, il va se lancer dans un défi un pas comme les autres, parcourir 6000 km le long du Nil, principalement à pied. 7 pays seront traversés et il est avec nous. Bonsoir Claude.
Bonsoir à tous, merci. Alors Claude, de m'accueillir.
Pourquoi vous vous lancez dans cette aventure?
Vous l'avez cité, je suis quelqu'un qui aime pouvoir se lancer des défis à titre personnel. Et puis si en plus de ça on peut rallier une cause noble, je le fais avec un grand plaisir.
Et quelle sera cette cause?
Alors pour le coup, c'est amener des médicaments à la population africaine, dans un premier temps physiquement. Et en plus de ça, une collecte de fonds qui est en cours pour pouvoir les aider aussi financièrement. Bon, je parle des ONG comme celle qui est en cours, à portée de main, qui est au Burundi.
Je précise à nos auditeurs qui nous regardent sur RTL.fr qu'il y a votre portrait qui est apparu sur les écrans du studio, parce que vous vous demandez qui
D'accord.
c'est.
Voilà.
C'est Claude.
C'est Claude. C'est son visage. Vous le faites à pied, en courant, ou vous faites les deux?
Oui, non, tout à fait. C'est à pied. Il y a plus de 6000 km, 6671, et j'y tiens parce que les 671, je vais quand même les faire.
Et cette expédition, c'est loin d'être un parcours de santé. Hein. Claude, vous avez traversé des zones dangereuses, vous serez accompagné?
Alors, pour le coup, on va parler de semi-autonomie parce que je vais rencontrer beaucoup de personnes sur le moment, mais au départ de cette expédition, je suis tout seul, je pars tout seul, et je vais bien sûr tenter de mettre en pratique mon passé d'ancien légionnaire en termes de survie pour pouvoir chasser, pêcher et cueillir de ce que je vais trouver. Maintenant, il est vrai que je vais quand même avoir dans mon sac à dos pas mal de jours de réserve de nourriture au cas où, si justement il y a des jours où je n'ai rien.
Le parcours en quelques mots qu'on comprenne, ma géographie du Nil n'est pas parfaite.
Bien sûr.
Ça vous passez par où?
Alors la source du Nil est au Burundi, au centre du Burundi, puis après, on passe sur le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Égypte, où il y a son embouchure.
Et comment vous avez eu l'idée de faire ce challenge, à cet endroit-là précis et ce parcours-là?
Alors, tout simplement, ma ligne directive depuis les presque 2 ans où je m'entraîne maintenant physiquement, c'était l'Antarctique pour 2020 et 2021, sauf que le Covid a vraiment... tout décalé, donc du coup l'Antarctique serait pour 2022. Et par rapport au Covid aussi, je souhaitais vraiment essayer d'écarter un peu au maximum possible de toucher à cette maladie. Donc voilà, il faut viser les pays chauds. Et pourquoi plus cette expédition qu'une autre? Tout simplement parce que je trouvais en fait que depuis les années 90-2000, on entendait pratiquement plus parler de l'Afrique et ses problèmes. Et ils sont toujours là aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre le point dessus pour pouvoir les aider un maximum.
Et Claude, cette aventure a un coût, vous avez tout le budget nécessaire avant de partir?
Non, du tout. On est encore à la recherche de pas mal de partenaires et de sponsors pour finaliser justement cette aide.
Quand on lance un appel, alors
ouais, comment on peut vous aider? Comment on pourrait vous aider?
Alors déjà, dans un premier temps, je trouve que c'est important de le souligner, c'est aller sur les réseaux sociaux en tapant juste mon nom et mon prénom et s'abonner. Donc déjà, ça fera avancer tout ce qui est communication. Et puis, en allant justement sur ces liens, il y a des onglets qui sont rattachés à ça, où on peut faire un don sur HelloAsso, où justement la collecte est en cours.
Et on vous mettra toutes les informations sur nos réseaux sociaux et la page Facebook dont Défait le Monde.
Bravo, merci beaucoup.
Voilà. Bravo à vous. Hein. On va suivre tout cela, on prendra des nouvelles évidemment. Attention aux grosses bêtes sur votre parcours.
Les hippopotames.
Il y en a pas mal sur le fer.
Attention à vous et encore bravo.
Est-ce que je peux vous demander une petite faveur?
Allez, très vite.
Très vite. Comme je vous écoute depuis le début que vous avez commencé ça, on Défait le Monde, est-ce qu'il serait possible d'avoir la montre?
Oui. Bien sûr. Ouais, mais attendez, c'est à moi de répondre.
Ah, pardon, c'est M. Cadeau qui dit oui.
Mais bien sûr.
Par contre, faudra la prendre là-bas, pendant tout le parcours. Faudra la porter pendant 6 000 km.
J'y compte bien.
Allez, on prend l'adresse et on vous envoie la montre. Merci Claude.
Merci
à vous.
Merci beaucoup.
Oh, mais c'est l'instant trop mignon.
Oh, et oui, le retour de l'instant trop mignon.
Mais pourquoi non ?
Chronique qu'on faisait l'année dernière, que Céline Landreau faisait. Eh bien, joie bonheur, vive la vie. Céline Landreau, membre historique de l'équipe dont défait le monde, a donné naissance hier soir au petit Emmanuel.
Ouais, non, petit, 4,4 kg, c'est un futur pilier, c'est pas un petit.
Ouais, alors, on les félicite.
On les embrasse.
Bien sûr, bravo. Emmanuel et Nico. N'oublie pas le papa.
On n'est pas du genre à s'immiscer dans la vie privée, on n'est pas du genre à passer un petit coup de fil à Céline Landreau, si
non,
c'est possible.
Bah non, pas dire
bah si, on l'appelle, on essaie.
Bah, si vous voulez, mais allez. Je suis pas sûr qu'elle réponde. Hein.
Elle a gagné au jeu.
Bah, elle a gagné 4,4 kg.
Non, mais elle est au courant ou pas?
Vous êtes des malades. Hein. Allô? Allô?
Céline?
Oui.
Bonjour, c'est la radio RTL.
Allô? On répond pas à la question du jeu, Céline Landreau.
Ah, si, si. C'est mon fils.
Bravo. Bon, on tenait à te féliciter.
Et à t'embrasser.
Et à t'embrasser.
Et embrasser Emmanuel.
Félicitations, Céline.
On peut l'entendre ou pas? Parce qu'on n'entend que vous, là.
Oui,
ça va, Céline?
Ça va super bien. Le petit, vous l'entendrez pas parce qu'il a écouté sa première émission, mais vous l'avez bien endormi. Hein.
Ça, c'est
avec lui, c'était cool.
Bon, portez-vous bien, Céline, et toute la famille. Du
bisous.
Coup, merci. Merci. Merci d'être passé par là, bien sûr. Les réseaux sociaux, vous réagissez, vous aurez très très vite le podcast à disposition. Le nom du gagnant de ce soir pour le jeu.
C'est Pascal qui a gagné. On a le vrai gagnant.
Super.
Bravo, Pascal.
Le Rungis même.
Rungis.
Souffle-t-on dans le casque.
Il est pas très loin.
On revient tous ensemble vendredi prochain. Ce
oui.
sera un plaisir, bien sûr.
À la semaine prochaine.
De 19h15 à 20h.
Merci à tous.
L'actualité dans un instant.
On défait le monde dans RTL Soir.